Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. Walter Wangunda. Il est membre de la société civile et il est coordinateur adjoint de la cellule de réflexion scientifique à Uvira au Sud-Kivu. Il est également chercheur des questions des politiques étrangères et stratégiques des pays des Grands Lacs. Bonjour, M. Walter Wangunda. Bonjour, M. Walter Wangunda. Est-ce que vous êtes là? Apparemment, il n'est pas encore là. Monsieur Moïse Moussangana, journaliste professionnel, ancien directeur des publications du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Bonjour Monsieur Moïse Moussangana.
Bonjour Guy Maté.
Et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Wolters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Madame Stéphanie Wolters, bonjour.
Bonjour Guy Maté.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Oui, nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de M. Walter Wangunda. Il est membre de la société civile et le coordinateur adjoint de la cellule de réflexion scientifique à Uvira au Sud-Kivu. Il est également chercheur des questions des politiques étrangères et stratégiques des pays des Grands Lacs. M. Moïse Moussangana, journaliste professionnel, il est ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, l'ancien DG de CKTV. Il est chercheur en matière électorale et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Wolters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. On va commencer par émettre un petit commentaire sur la persistance des massacres des civils dans certains territoires de l'Ituri, une province où, selon la société civile, 131 personnes ont été tuées en un mois, et aussi dans les territoires de Beni au Nord Kivu, où, selon la société civile, plus de 50 personnes sont mortes dans des attaques des ZDF. Monsieur Moïse Moussangana, les massacres ont repris avec beaucoup d'ampleur en Ituri et dans Beni, mais on ne sent pas une mobilisation de la part du gouvernement comme cela est fait quand il s'agit, n'est-ce pas, de la guerre du M23. Comment vous pouvez comprendre cela, Monsieur Moïse Moussangana?
Bon, je voudrais dire que le gouvernement n'est pas désintéressé sur ce qui se passe en Ituri. Ben, il faut dire que il a peut-être des efforts qui sont dispersés. Il faut faire face à ce qui se passe au Nord Kivu avec le M23. Il y a les ADF aussi au Nord Kivu. Et en dehors des ADF au Nord Kivu, vous avez aussi les théâtres de l'Ituri. Ça fait peut-être un peu plus pour le gouvernement, je pense, mais je crois qu'il s'y applique. Mais il y a peut-être des efforts à fournir encore.
Merci, Madame Stéphanie Wolters. En un mois, c'est plus de 200 personnes qui sont tuées dans cet espace géographique. On y enregistre aussi des milliers de déplacés de guerre. Et si la société civile et les journalistes n'en parlaient pas, on ne saura jamais ce qui s'y passe. Et on a tout de suite l'impression qu'il s'agit de deux situations de nature différente, Madame Stéphanie Wattas.
Bon, je crois qu'il est vrai qu'actuellement, l'attention est surtout dirigée sur ce qui se passe avec le M23 aux alentours de Goma. Et cela a entraîné que beaucoup de ressources, que ce soit des FRDC, mais aussi de la MONUSCO et d'autres forces sur terrain, se concentrent beaucoup plus sur ça. Et je ne veux pas dire que les autres zones sont délaissées, mais il y a moins de forces là-bas pour combattre les acteurs qui sont présents depuis toujours. C'est pas nouveau. Mais je crois que justement, cette focalisation sur le M23 a fait en sorte que d'autres groupes comme l'ADF, le CODECO et ainsi de suite, qui sont actifs au Nord Kivu et en Ituri, puissent justement profiter de cette attention qui est prêtée au M23. En même temps, je crois que cela montre aussi, une fois de plus, le manque de succès de l'état de siège. Parce que finalement, avec cet état de siège qui vient d'être encore une fois renouvelé cette semaine, je crois, ça n'a pas vraiment eu l'impact que ça devrait avoir. Donc même s'il y a un plus grand problème autour de Goma, ça ne devrait pas faire en sorte que les groupes armés en Ituri et au Nord Kivu, au Grand Nord, puissent s'activer à cette ampleur.
Et à votre avis, les enjeux de ces deux conflits ne peuvent-ils pas expliquer la manière d'agir du gouvernement congolais?
Oui, oui, bien sûr. Bon, écoutez, je crois que nous avons tous suivi la force avec laquelle le M23 a pu conquérir le terrain, a pu garder le terrain depuis la fin de 2021. C'est très inquiétant et évidemment le rôle que joue le Rwanda là-dedans veut en sorte qu'il y a d'autres enjeux qui sont régionaux. Aujourd'hui, on a les deux pays qui sont vraiment à couteau tiré. Donc ça, c'est vrai que les enjeux sont différents, les enjeux sont régionaux et très dangereux pour le pays. Mais sur terrain, ce qui compte, à mon avis, c'est la vie des civils. Et c'est ça, surtout, le rôle des FRDC et d'autres forces de sécurité congolaises, c'est de protéger les civils. Et ça se fait pas, que ce soit en Ituri, que ce soit au Grand Nord, ou bien au Nord, ou bien au Sud Kivu. Et c'est ça le grand drame de cette situation.
La réalisation me signale qu'on n'arrive toujours pas à joindre M. Walter Wangunda. Et M. Moïse de Moussanganya, les conflits dans Beni, les conflits en Ituri, peut-on se permettre de parler déjà d'une guerre oubliée?
Non, ce n'est pas une guerre oubliée. Je crois que en parlant de forces armées de la République démocratique du Congo, je crois qu'il y a aussi lieu de mettre un peu de bémol, hein, parce que bien sûr, quand nous parlons de FARDC, nous faisons allusion à une armée régulière normale comme il y en a dans des grands pays, mais ce n'est pas tout à fait ça. Quand vous lisez un peu Benoît Moussavouli, je crois qu'il intervient souvent aussi sur Radio Okapi. Quand il vous parle de la sociologie, je crois qu'il faut comprendre aussi la sociologie des FARDC. Les FARDC, c'est quoi? C'est une armée qui a en son sein des armées, avec le brassage, avec le mixage. Il y a eu des militaires qui sont venus de partout, chacun avec sa doctrine, son idéologie, chacun défendant peut-être le pays, le couleur du pays pour lequel il est intégré dans ce FARDC. Voilà, tout ça fait que les FARDC ne peuvent pas produire le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est en train de vouloir mettre un noyau pour constituer la nouvelle armée que tout le monde attend pour devoir défendre les frontières nationales, en même temps, il y a des traîtres dans l'armée et qu'on sort ça déjà difficile pour le commandement. Je pense que il faut toujours mettre un peu de bémol quand on parle de ça. Donc la sociologie de FARDC, comme le dit Benoît Moussavouli, je crois qu'elle est très 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 importante à prendre comme donne quand on parle de FARDC. Donc on est là en train de vouloir mettre en place un noyau qui doit constituer la nouvelle armée, et en même temps on fait face à toutes ces difficultés. Je crois que c'est ce qui fait que le résultat ne sont pas peut-être ce que nous escomptons, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, parce qu'autrefois, toutes ces armées-là, même l'armée rwandaise, entrait comme dans du beurre au soleil, Mais aujourd'hui, quand même, on sent qu'il y a une résistance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Il faut du temps. Il faut peut-être 5 ans ou à 10 ans pour construire quand même une armée. Mais je vois pourquoi peut-être le président Tshisekedi met beaucoup plus un accent sur l'aspect diplomatique. Mais entre-temps, le pays n'a pas croisé les bras pour pouvoir quand même former l'embryon de cette nouvelle armée que tout le monde est en train d'espérer. Donc, vous voyez, on fait face à une armée qui n'en était pas une au départ, qu'il faut former. Et entre-temps, on est devant des enjeux ou des défis qui ne sont pas seulement nationaux, mais qui sont aussi régionaux. Merci. Donc voilà toute la difficulté. Donc c'est pourquoi même j'ai entendu Stéphanie dire que l'état de siège n'a pas produit les effets escomptés. Mais je crois que quand on voit cet état de siège peut-être de l'heure, on ne pense pas que cet état de siège a produit quelque chose. Mais pour les gens qui vivent à Goma par exemple, ils savent bien que Goma c'était une poudrière. On a ramassé des armes avec cet état de siège. Il y a eu des maisons où on a sorti plus de 20 armes. Grâce à l'état de siège, on a quand même réussi à maîtriser quelque chose. Grâce à l'état de siège aussi, je crois que le conflit qui était en train de prendre l'ampleur entre les Nandés et les Hutus dans le nord Kivu, on ne sent presque plus. Donc, je crois qu'il faut regarder toutes ces choses-là d'une manière relative et ne pas le voir de manière absolue.
Merci, M. Moïse Msanganya. On prend une petite pause avec RDC, une composition de JBM Piana, et on revient tout de suite après. RDC, une symbiose des folklores congolais. À travers cette chanson JBM Piana, patron de Wenge Musica BCBG évoque certaines réalités ethniques et culturelles de la République démocratique du Congo. On revient à l'actualité de cette semaine. Le pape François a clôturé ce vendredi 3 février sa visite de 4 jours à Kinshasa, où il est arrivé mardi 31 janvier dernier. Lors de sa rencontre mardi avec les autorités politiques congolaises, la société civile et les corps diplomatiques à Kinshasa, il a affirmé que la RDC en particulier et les continents africains souffrent encore de diverses formes d'exploitation. Après le colonialisme politique, dit-il, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ces pays largement pillés ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. Il a dénoncé la violence dont sont victimes les populations de la partie orientale de la RDC et les prises d'otages des citoyens par des groupes armés. Sur le plan politique, le pape François a plaidé pour des élections libres, transparentes et crédibles en RDC. Le souverain pontife a également interpellé les dirigeants à différents niveaux face aux différents fléaux qui gangrènent la société. Madame Stéphanie Walters, vous êtes chercheuse à l'Institut sud-africain des relations internationales. Qu'est-ce qui motive les choix de ce sujet?
Bon, d'abord, moi, je voudrais dire que c'est quand même d'abord un événement religieux qui a eu lieu cette semaine à Kinshasa et pour le Congo. Et c'était vraiment un événement qui a apporté beaucoup de bonheur pour le peuple et pour tous les chrétiens congolais. Et donc, quelque part, ça a été vraiment un moment très spirituel. Il a apporté aussi, bien sûr, la visite du pape a apporté énormément d'attention médiatique du monde, des journaux, des organes médiatiques qui normalement ne parleraient pas de la RDC, ont pu faire des reportages et je crois que ça c'est aussi très important. Et puis aussi important c'est le fait que le pape a rappelé à tout le monde que la violence, la misère et la souffrance de la RDC sont hors normes, inacceptables et totalement insupportables. Il a vraiment porté à la connaissance du monde et reconnu l'horreur que vit le pays. Et tout ça, ce sont des choses très importantes qui viennent avec cette visite. En plus de ça, la visite a été bien organisée, c'est très bien pour l'image du pays. Il n'y a pas eu de dérapage, les services de sécurité ont bien géré sans incident ces grands événements, des messes avec 2 millions de personnes, l'arrivée du pape à partir d'une gilet. Donc tout ça, je crois, a vraiment contribué à l'image du pays à l'extérieur, mais aussi à la fierté du pays et des Congolais. Pour ça, je crois que ça a été vraiment un événement très important. Évidemment aussi, moi j'imagine que ça a aussi énormément rehaussé l'Église catholique, qui est très important, un acteur clé depuis très longtemps, surtout dans cette année où on est devant une élection qui doit avoir lieu avant la fin de l'année. Donc ce n'était pas une visite apolitique. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, il a évoqué des aspects de la souffrance du pays. Il a parlé de l'exploitation des ressources du pays, le fait que le pays est pillé depuis très très longtemps et que justement toutes ces richesses n'ont rien donné, enfin très peu donné pour la grande partie de la population. Je crois que tout ça, c'est des messages très importants. Il est important de reconnaître non seulement le rôle, je crois, des acteurs internationaux, que ce soit le secteur privé qui est impliqué à plusieurs niveaux dans les mines et dans l'exploitation des différentes ressources du pays, ainsi que les exploitations plus illégales qui se font par les pays limitrophes, mais aussi le rôle que joue l'État congolais ou le rôle que devrait jouer l'État congolais qui ne joue pas efficacement jusqu'aujourd'hui et que certainement d'autres administrations dans le passé, c'est-à-dire Mobutu et Kabila, n'ont pas joué le rôle de garant de ces richesses. Ils n'ont pas mis à la disposition du développement du pays toutes ces richesses. Ça doit être vraiment quelque chose dont nous nous rappelons. Ce n'est pas uniquement les acteurs internationaux. Il y a une complicité au niveau du pays qui fait en sorte que c'est possible de ces acteurs d'exploiter le pays à ce point. Et donc c'est aussi, je mets un peu l'accent là-dessus parce que je crois que c'est quelque chose dont le pape n'a peut-être pas vraiment parlé. Et pour résoudre ce problème, il faut que les choses changent aussi au niveau de l'État congolais. Et donc on ne peut pas toujours pointer le doigt les acteurs externes, il faut aussi regarder les acteurs internes. Mais je crois en gros que cette visite a été très importante pour le pays et les messages qu'a apporté le pape ont été écoutés et largement appréciés de là où je suis si je regarde un peu la couverture de sa visite.
Oui, Madame Stéphanie Walters, le pape est resté ce pasteur qui n'a pas été complaisant. Vous l'avez rappelé, il a interpellé aussi bien les forces qui tirent les ficelles dans les conflits armés en RDC que les dirigeants politiques sur ce qui doit être, n'est-ce pas, leur responsabilité, leur comportement. On dit que la parole du pape porte. Et à votre avis, Madame Stéphanie, jusqu'à quel point les déclarations faites par le pape François peuvent influer sur les cours des événements?
Bon, comme je disais au début, il y a évidemment, le Congo, c'est un pays où les gens sont très attachés à la religion. Il y a beaucoup de chrétiens. Une visite comme ça par le Saint-Père pour une communauté, une population qui est très religieuse, je crois que sa voix porte énormément. Lié à ça, le rôle prominent que joue déjà l'Église catholique, je crois que cela a été encore une fois renforcé par la visite du pape, par le sens de ce qu'il a dit. Je crois que le sous-entendu de ça, c'est tenez vos dirigeants responsables, et ça dans une année électorale, c'est très puissant comme message. Et c'est effectivement le Congo a déjà vécu des crises électorales une après une autre. Et je crois que beaucoup de gens savent que les élections, c'est des moments clés. On a vu ce qui s'est passé en 2018, la contestation, le résultat qu'on a finalement reçu et avec lequel il fallait vivre. Et donc, ce que le pape dit a certainement eu un impact, à mon avis, par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à la sensibilisation, l'importance de vraiment exiger des dirigeants congolais aussi une performance.
Merci. Merci, Madame Stéphanie Waters. Monsieur Walter Wangunda, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là. Je suis là.
Bonjour, on n'a pas eu l'occasion de se saluer au début de l'émission. Bonjour.
Oui, bonjour. Ça va bien, Dimaté?
Voilà, je rappelle que vous êtes membre de la société civile et coordinateur adjoint de la cellule de réflexion scientifique à Uvira au Sud-Kivu. Vous êtes également chercheur des questions des politiques étrangères et stratégiques des pays des Grands Lacs. Nous parlons, n'est-ce pas, de la visite du pape. Et on sait que le pape François est le chef de l'Église catholique universelle. Les clergés de l'Église catholique du Rwanda peuvent-ils, à partir des messages prononcés par les papes, rentrer dans la danse en influençant la politique rwandaise de la RDC et en recommandant, par exemple, à leur président de cesser tout soutien au M23? N'est-ce pas ça aussi la diplomatie papale?
Oui, il revient de souligner que ce que vous venez d'évoquer là, c'est ce que tout le monde attend de visite du pape, parce que notons que les visites du pape constituent un outil de son influence diplomatique, parce que le Saint-Siège constitue en soi un acteur des relations internationales, mais aussi un sujet du droit international. Donc, le message là que vous venez de souligner comme préoccupation concernant la conférence épiscopale du Rwanda, je pense que c'est ça l'attente de tous les Congolais qui, eux aussi, jouent un rôle dans la résolution ou la quête des solutions par rapport aux problèmes qui se posent dans la région des Grands Lacs. Mais je reste un peu sceptique parce que, vu la gouvernance au niveau de Kigali, je suis en tout cas sceptique de croire que les évêques joueront en tout cas pleinement ce rôle vu les contrôles quasi totalitaires du régime. Et je pense que le rôle de ces visites-là, que nous espérions tous que ça puisse apporter un plus dans la résolution des conflits au niveau des pays des Grands Lacs, car on sait bien que cela joue un rôle de prestige. Accueillir le pape sur son sol, c'est un fait important qu'il faut souligner, que c'est un retour sur la scène internationale de la RDC dans le Conseil des Nations, car aujourd'hui toute la communauté internationale a les yeux rivés sur la RDC, et le message du pape est clair. Il a dénoncé la gouvernance locale ou la gouvernance interne qui donne prétexte aux pays des Grands Lacs, et que maintenant au niveau des États, il faut s'approprier le message du pape, et au niveau du peuple congolais de s'approprier le message du pape, enfin de pouvoir travailler à l'interne et mettre fin aux prétextes de nos voisins. Mais aussi s'agissant de la conférence épiscopale de Kigali, je crois que il faut que le pape amène la conférence épiscopale de Kigali, en fait, de ne plus s'inscrire dans la logique de pouvoir professer ou soutenir les actions ou les interventions extérieures de Kigali à l'égard de la RDC, mais suivre le message aussi, s'approprier le message, en fait, de coordonner avec la conférence épiscopale de la RDC et donner solution au problème posé au niveau de la confiance, de la diplomatie pour l'homme et pour les peuples que le pape a souligné. Le Saint-Siège en soi, comme étant un État, le pape joue le rôle de patron de sa politique étrangère ou de la diplomatie vaticane ou du Saint-Siège, car son rôle primordial est de défendre et de protéger les droits de l'Église catholique partout dans le monde, mais aussi de professer ou de défendre la promotion des valeurs universelles de la paix, mais aussi c'est de soutenir le droit ou la liberté de la religion pour que les fidèles catholiques puissent vivre dans l'état d'accueil ou dans leur état, leur liberté de religion et de croire à la religion, notamment catholique.
Merci.
Donc c'est un message très important de l'accueillir sur le sol congolais.
Merci, M. Moïse Moussangana, journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV. Vous êtes chercheur en matière électorale. Comment les dirigeants politiques de la RDC peuvent-ils se comporter pour qu'après la visite du pape ne soit pas égale à avant cette visite, M. Moïse Moussangana?
Bon, je voudrais dire juste un petit mot pour dire que la visite du pape en RDC, c'est un grand événement qui s'inscrit, qui participe de la payante politique d'ouverture diplomatique du président Tshisekedi. Ça, il faut le dire, parce que la communauté internationale, c'est pas seulement les États, c'est pas seulement les organisations internationales, c'est aussi des individus pris in tutte personae, donc des gens avec notoriété comme le pape, donc ils font partie, en dehors qu'ils soient président d'un État. Donc, il constitue aussi la communauté internationale. Donc, le fait que le pape soit venu au Congo et reprenne en cœur les doléances du Congo vis-à-vis du monde, je crois que c'est un grand événement. Parce que jusque-là, la communauté internationale était inactive, silencieuse face au drame qu'il y avait au Congo. Les Congolais sont montés sur tous les toits à dire que non, voilà, il y a les Rwandais qui est en train de faire ceci. Personne n'écoutait les Congolais. Et je crois que suite à la diplomatie agissante du président Tshisekedi, on est arrivé quand même à ce constat. Aujourd'hui, le monde réalise que non, les Rwandais, c'est la source du mal, une des sources du mal qu'il y a en République démocratique du Congo. Et grâce à la diplomatie de Tshisekedi aussi, ou du gouvernement, je voulais dire, on a même fait sauter l'embargo qui pesait sur le Congo en ce qui concerne l'achat d'armes. Je voudrais dire ceci pour répondre à votre question. Je dis que lors du passage du pape, tout le monde en a eu pour son garde, que ce soit les dirigeants politiques qui ne réalisent pas ce qu'on attend d'eux, que ce soit même le dirigeant religieux. Le pape a même constaté qu'il y a une médiocrité spirituelle dans les chefs des religieux. Donc c'est très grave. Le pape a même dit aux religieux que avant de faire appliquer aux autres ce que vous pensez, commencez par vous l'appliquer vous-même. Je crois que tout le monde en a eu pour son grade et tout le monde doit quand même se sentir à un niveau ou à un autre responsable de la situation que connaît le Congo aujourd'hui et essayer de rectifier les tirs. Voilà ce que je peux dire.
Madame Stéphanie Walters, peut-on un jour dans ces pays en RDC espérer palper ou quantifier les retombées de cette visite du pape François?
Bon, je crois que ça sera très très difficile de quantifier cela. Je crois que ça vient à un moment où justement la tension de la communauté internationale est très focalisée sur la RDC. Il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués actuellement, que ce soit dans la région, donc Luanda, la communauté est-africaine, à un certain point la SADC, mais aussi des acteurs plus lointains, l'ONU, les acteurs bilatéraux qui ont depuis la fin de décembre quand même parlé très fort par rapport au rôle que joue le Rwanda avec leur soutien au M23. Donc je crois qu'actuellement il y a énormément d'attention qui est focalisée sur la RDC. Il n'y a pas que le pape. évidemment, mais le pape a un rôle spécial. Monsieur Water, on a très bien parlé. Il a parlé justement du Saint-Siège et de la politique étrangère et tout ça. Donc, je crois que c'est un moment que les gens qui l'ont vécu vont jamais oublier par rapport à l'impact sur la résolution du conflit actuel avec le M23 et d'autres conflits. Je crois que ce sera très difficile de dire qu'il y a eu vraiment un lien direct si jamais on arrive à une résolution dans les jours, les mois et les années à venir.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons donc écouter cette nouveauté de Fally Ipupa SL contenue dans l'album Formule 7. On revient juste après.
Steve Luemba, Mobalia Eliane Luemba, la part non négociable. Kouloutou Gentiningo Bila le Gouvre. L'ambassadeur Clovis Guillon, Mustapha Barry, Marc Wabi. Madame Aïda Rachato, Yamoui Kasson, Alain Finini, Barakis. Une des perdues disparaît, trouvée. Yes. Mon cœur ne bat plus pour toi, chérie. Mais dans mes rêves, vous êtes toujours présenté. J'en ai marre tout le temps des mensonges, caprices. Mais les mineurs, un peu par après, c'est des délices.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la reprise des massacres à Beni et à Ituri. Nous avons également analysé la visite du pape François en RDC. Participe à cette émission, M. Watt Wangunda, il est membre de la société civile et le coordonnateur adjoint de la cellule de réflexion scientifique à Ouvira au sud Kivu. Il est également chercheur des questions des politiques étrangères et stratégiques des pays des Grands Lacs. M. Moïse Moussangana, il est journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Les Potentiels, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Madame Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Un autre fait d'actualité de cette semaine, c'est la situation sur les différents fronts au nord Kivu, dans la région de Kichanga-Mueso, territoire des Masisi, où s'affrontent les FRDC et les forces d'autodéfense contre les rebelles du M23 avec le soutien du Rwanda. Monsieur Wat Wangunda, qu'est-ce qui a motivé les choix de ces sujets?
Oui, le choix de ces sujets n'est pas un fait du hasard, mais aussi cela est d'actualité. Ça fait plus de 2 décennies maintenant qu'on en parle. Et depuis 2022, il y a eu une résurgence du groupe armé M23. Alors, ça fait parler de lui. Et aussi, il y a aujourd'hui des forts contacts diplomatiques au niveau de la sous-région, même au niveau international. On a vu avec Tshisekedi à l'ONU et partout où il passe, il ne cesse de le répéter que le M23 est soutenu par les pays voisins. Alors, c'est cette dimension-là, internationale, qui m'a poussé beaucoup plus à analyser les conflits au nord Kivu.
Est-ce que vous comprenez ce silence de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, hein? Ça fait presque 2 semaines depuis que les rebelles du M23 ont lancé des attaques de grande envergure contre les positions des FRDC et ont occupé, n'est-ce pas, de nouvelles localités. L'EAC ne s'exprime pas, les facilitateurs Uhuru et Lourenço, eux non plus. Cela pourrait s'expliquer par quoi, M. Water Wangunda?
Oui, cela s'explique par le fait que cette guerre au nord Kivu n'est pas en soi une guerre à l'est comme le désirent souvent les gens, mais c'est une guerre contre la RDC et non contre sa partie orientale, car cela fait partie du complexe de sécurité. Alors donc, la sécurité en RDC est interliée ou interdépendante ou dépend sensiblement de la stabilité de la région. Alors, tout le monde y gagne dans cette guerre. Alors, c'est impossible ou pratiquement impossible de penser que la guerre au nord Kivu n'arrange pas les États de la région, notamment de l'East African Community. Car, souvenez-vous, depuis 2015 jusqu'en 2022, il y a eu fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda. En 2019, il y a eu fermeture de la frontière entre Kampala et le Rwanda. Et donc, il y a cette complexité de la région. Donc, c'est une guerre à la fois commerciale, économique, politique et géopolitique auquel les acteurs de la région veulent s'affirmer ou veulent affirmer leur domination sur l'espace congolais, tout en se reprochant de vouloir se supplanter. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est comprendre les silences des États de la région revient à analyser les dividendes que gagne chaque État de la région au sein de cette guerre-là. Au sein de la guerre qui se vit au nord Kivu. Et donc, il est pratiquement impossible de comprendre que le nord Kivu est en guerre et que les Kenyans n'y gagnent pas, ou l'Ouganda n'y gagne pas, ou le Rwanda n'y gagne pas. Et même le Burundi sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, le Congo, le nord Kivu, l'Ituri, le sud Kivu font partie des zones d'influence économique des États voisins. Alors, tout le monde veut tuer la part du marché et s'accaparer du marché tout seul. Et la motivation du régime de tension remonte à la signature des accords entre la RDC et les FRDC et les IPDF sur la traque des ADF, mais aussi la construction des routes de Kasindi, Beni et aussi vers Goma, qui a fâché le Rwanda et a poussé le Rwanda à appuyer sur le bouton du M23 et retourner le M23 en circulation ou en état de combat, qui a fait en sorte que, si vous voyez bien les contours de la région, et même les déclarations du président Uhuru Kenyatta avant sa prise de fonction, c'était en tout cas lié au régime de dénigrement de la RDC, mais aussi quand on regarde les tweets du fils de Museveni, on comprend bien que tout le monde comprend ce qui se passe, sauf les dirigeants congolais et les Congolais, parce qu'ils sont à la fois victimes et à la fois on les sollicite pour être des solutions aux problèmes auxquels les autres pensent stratégiquement à long, à moyen et à court terme.
Merci.
Donc c'est un peu ça.
Merci, oui. M. Moïse Moussangana. Maintenant que les facilitateurs de l'EAC et celui de l'Union africaine semblent garder silence et que la rencontre des Doha entre le président de la RDC et son homologue rwandais n'a pas eu lieu, et aussi le fait que le Rwanda a retiré tous ses officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en RDC. Et à votre avis, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre qui restent encore aux deux présidents, n'est-ce pas, pour continuer de résoudre cette crise de manière diplomatique?
Parce qu'il faut dire que dans les cas de la crise en République démocratique du Congo, s'il faut la résoudre, ce n'est pas seulement le médiateur, parce que le médiateur, pour résoudre cette crise-là, il faut la collaboration de tous ces États impliqués. Et si ces États-là ne coopèrent pas, je crois que c'est difficile pour ces médiateurs. Je crois que c'est la situation maintenant. Pourquoi c'est là? Parce qu'il faut se dire que pour rien au monde, le Rwanda n'accepte pas de ne pas avoir une zone d'influence politique en République démocratique du Congo. À l'Est, c'est ce qui fait sa survie, et surtout économique, comme de l'autre côté, l'Ouganda veut toujours avoir une zone d'influence économique en République démocratique du Congo, donc du côté de l'Ituri, même voir Beni. En dehors de ça, même le pays qui ne sont pas dans la ligne de front, le Kenya et consorts, tout le monde a ses yeux rivés sur le Congo. Tout le monde veut profiter du Congo. Il y a peut-être que les Congolais qui ne savent pas ce qu'ils veulent, comme venait de dire M. Water. Donc, il faut dire que nous devons savoir que tous nos voisins joue, comme l'a dit professeur Bioya, d'heureuse mémoire, dans une de ses publications, que tout le monde travaille à l'affaiblissement institutionnel de la République démocratique du Congo, parce que tout le monde veut profiter de la République démocratique du Congo. Alors, maintenant, vous allez comprendre, je crois que Walter a même dit quelque chose, avant que les troubles s'amplifient au Nord Kivu, avec les regains de la violence, avec le M23, il y a l'Ouganda qui avait des problèmes avec le Rwanda, le Rwanda a tout fait pour harmoniser. Il y a le Rwanda qui avait des problèmes avec le Burundi, la frontière entre le Rwanda et le Burundi était fermée depuis 2015. Elle vient d'être ouverte, je crois, au mois d'octobre 2022. Donc ça veut dire qu'avant d'amorcer sa barbarie en RDC, le Rwanda a voulu d'abord ménager ses voisins de telle manière qu'ils aient un autre œil sur son aventure funeste en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que dans tout ça, c'est le Congo aussi qui est le dindon de la farce, parce que le Congo n'a pas un agenda à lui. Et ce que connaît le Congo aujourd'hui était déjà préparé de longue date, déjà à partir de l'AFDEL, quand le Rwanda, où l'AFDEL est venu sur le dos du Rwanda au Congo, qu'est-ce qu'on a fait? C'était de démanteler l'armée, c'était de démanteler les services de sécurité, la police et consorts. Donc de telle manière que les Congo mettent du temps où les Congo n'aient plus jamais les services de sécurité et de défense. Et comme ça, ils peuvent entrer comme dans leur champ et faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, nous devons, à partir de ça, prendre conscience de la situation qui est la nôtre, ne pas baisser le bras, ne pas fléchir le genou, essayer de repenser ce que nous devons être et comment nous pouvons aussi, demain, essayer de nous faire respecter dans la région. Parce que, déjà, nous avons tous les atouts qu'il faut sur le plan économique et consort. Mais il nous manque certaines choses, comme l'a dit le pape et consort, avec la corruption qui mine notre économie, avec la corruption qui corrompt la jeunesse et consort. À un moment donné, je pense que le Congo doit essayer de s'arrêter et voir qu'est-ce que le Congo peut être. Est-ce que le Congo est capable demain de répondre à sa vocation qui est africaine, sa vocation qui est internationale. Mais pour cela, il faut que le Congo se construise. Il faut, même le pape a dit même quelque chose de très important, en nous rappelant même quelques airs de notre hymne national. Nous avons promis au monde et à Dieu que nous allons construire un pays plus beau qu'avant, un pays où il fera mieux vivre. Mais est-ce que nous le faisons? Donc voilà des questions que nous devons nous poser.
Merci, merci Madame Stéphanie Walters. La stratégie du M23 et leur soutien rwandais, au-delà du fait de vouloir se placer dans une position des forces en prévision, n'est-ce pas, d'éventuelles négociations, quel pourrait être son objectif ultime?
Mais je crois qu'il faut séparer peut-être des choses. C'est-à-dire quels sont les objectifs du Rwanda avec, comme a dit Walter, quand ils ont appuyé sur le bouton M23. Je crois que Walter lui-même l'a évoqué, il y a eu évidemment le rapprochement entre l'Ouganda et la RDC par rapport aux opérations militaires conjointes contre les ADF, il y a eu la construction des routes. Donc il y a cette rivalité qui existe depuis l'Ouganda et le Rwanda depuis toujours. Et à mon avis, quand le Rwanda a vu à quel point l'Ouganda s'approchait de Kinshasa, ils n'ont pas aimé que leur rival ait plus d'influence sur une zone qu'ils considèrent la leur. Et donc voilà, est rené le M23 au point où il en est aujourd'hui. Donc c'est pour des raisons de rivalité régionale, c'est pour des raisons de vouloir continuer à avoir une influence à l'Est, On a aussi parlé du fait que, quand on se souvient de 2019, par exemple, les relations avec Tshisekedi étaient telles que Tshisekedi avait permis aux Rwandais d'entrer au pays. Clandestinement à l'époque, on en parlait très peu, mais avec son aval. Depuis lors, les relations se sont dégradées et au courant de l'année de 2021, Tshisekedi s'est opposé à une présence plus permanente des Rwandais. Ça aussi a joué un rôle important dans la reprise des activités du M23. Donc il y a énormément de choses qui ont poussé le Rwanda à reprendre cette activité. Je voulais juste, si vous permettez, ajouter deux éléments à la discussion qui a précédé votre question. Et c'est de dire aussi qu'il ne faut pas oublier que c'est le président Tshisekedi qui a volontairement adhéré à la communauté est-africaine. La communauté est-africaine ne s'est pas imposée sur la RDC. Et il faut aussi savoir que par rapport à l'accession justement à l'East African Community, c'était beaucoup plus le Kenya qui a poussé pour ça et a été opposé au Rwanda. Le Rwanda ne voulait pas du tout de la RDC dans la communauté est-africaine. Maintenant, même chose avec la force régionale. La force régionale, c'est quelque chose que Tshisekedi a accepté. Il a été d'accord, il a voulu que cette force se déploie. On peut se poser énormément de questions par rapport à la composition de cette force. L'idée que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi peuvent être neutres en RDC, je crois que nous pouvons tous nous mettre d'accord que ça, c'est pas du tout possible. Mais je veux dire, la force ne s'est pas imposée. Donc l'idée qu'aujourd'hui la force elle est là pour piller le Congo, bon, les Ougandais sont là au nord déjà avec l'ADF, ça a précédé d'ailleurs la force est-africaine. Les Burundais et leur présence aussi, ce qui doit aussi précéder la force est-africaine. Aujourd'hui, on a principalement les Kenyans. Et si je peux répondre à la question que vous avez posée par rapport à silence, moi je crois que le grand problème, c'est que le Kenya a sous-estimé totalement la difficulté de résoudre les conflits locaux avec les pourparlers de Nairobi et la situation avec le M23. Et qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder cette situation et de comprendre que finalement, c'est aussi la discussion avec le Rwanda qui est clé à la résolution de tout cela. Et semble étonné que ça ne se résout pas facilement. Mais de l'autre côté, on aurait pu prévoir ça. C'est toujours très difficile, même avec la pression sur le Rwanda, de faire en sorte qu'ils arrêtent de soutenir la M23. Mais pour moi, c'est ça la grande explication. C'est que tout le monde est étonné de voir à quel point les tensions entre les deux présidents sont arrivées aujourd'hui. On a eu l'incident avec l'avion cette semaine. On est vraiment dans une situation très grave. Et à mon avis, l'EAC est totalement dépassée par la situation.
Merci beaucoup, alors, Madame Stéphanie. Et lui a beaucoup chanté pour l'Afrique. C'est Franklin Boukaka. On l'écoute dans AE Africa et on revient juste après.
Africa,
Franklin Boukaka, artiste, musicien, compositeur de la République du Congo, qui nous a quittés il y a plusieurs années de manière tragique. Il avait été arrêté, jugé, exécuté pour avoir été accusé, n'est-ce pas, d'avoir participé à un complot contre l'ancien président du Congo-Brazzaville, le camarade Marien Ngouabi. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission M. Walter Wangunda, il est membre de la société civile et le coordinateur adjoint de la cellule des réflexions scientifiques à Ouvira au Sud-Kivu. Il est également chercheur des questions des politiques étrangères et stratégiques des pays des Grands Lacs. M. Moïse Moussangana, journaliste professionnel, il est ancien directeur de publication du journal Les Potentiels, ancien DG de CKTV. Il est chercheur en matière électorale et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Le processus électoral a aussi défrayé la chronique cette semaine en RDC. La population de Kalemie-Tanganyika a déploré mercredi 1er février la lenteur dans l'opération d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Au centre Bakita et Katarina Beni à Kalemie, certains requérants ont affirmé arriver vers 4 heures pour avoir les jetons afin d'avoir accès au centre de capture. Ils disent de passer plusieurs temps pour afin de se faire enrôler. En effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle jeudi 26 janvier dernier. Monsieur Moïse Moussangana, vous avez choisi, n'est-ce pas, de parler des élections générales de 2023 à l'aune des processus électoraux de 2006, 2011 et 2018. Pourquoi?
Effectivement, Guy Maté, vous allez constater avec moi que avec les élections de 2023, ça fera... on sera au quatrième processus électoral. Les processus électoraux se suivent et se ressemblent malheureusement. On ne parvient pas à connaître une embellie, une amélioration dans l'organisation des élections, dans leur qualité et consorts. C'est cela qui m'a poussé à proposer ce terme, parce que j'ai écrit d'ailleurs un livre qui doit sortir incessamment, intitulé « Élections et crise de légitimité en République démocratique du Congo, regard critique sur le présidentiel 2006, 2011 et 2018 en République démocratique du Congo. » Bon, qu'est-ce que, quand j'analyse tout ceci, j'arrive au fait que beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les acteurs, que ce soit les acteurs sociaux, que ce soit les acteurs politiques, alors personne, en dehors de quelques rapports après les élections dont nous gratifie la mission d'observation électorale, il n'y a jamais eu alors une évaluation du processus électoral proprement dit. Alors ce qui fait que les tares d'hier, elles sont reconduites aujourd'hui et seront reconduites demain. Et malheureusement, chacun des acteurs, que ce soit l'acteur politique, que ce soit l'acteur social, y compris nous-mêmes les électeurs qui devons choisir le dirigeant. Personne ne se pose la question pourquoi ceci est arrivé et qu'est-ce qu'on doit faire pour conjurer cela. Donc c'est ça, malheureusement, la situation. Et on en est là. Même l'UDPS qui est au pouvoir, ne pas arriver même à évaluer le processus qui l'a conduit au pouvoir afin d'améliorer pour le cycle 2023. Fayoulou, qui s'est autoproclamé président élu, hier, il n'a même pas eu de témoins dans le bureau de vote. Je l'ai dit en connaissance des causes, parce que j'étais coordonnateur de la communication de Martin Fayoulou dans le cadre de la MOUCA par les MLC interposés, et je connais ce que les Kinois appellent Masolo Yakati. Donc,
et à votre avis, parce que vous avez peint ces sombres tableaux, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans les mois prochains, qu'on puisse améliorer ces processus électoraux? Qu'est-ce que vous pouvez recommander à la CENI?
Je crois qu'il y a au départ un petit péché originel, comme le disait professeur Bioya. Donc, c'est le concept d'abord élection en République démocratique du Congo. Les élections en République démocratique du Congo qui vient
dans la suite du processus militaire de Lusaka qui a abouti au dialogue intercongolais, il ne faut pas prendre ces élections-là comme étant style de contestation d'une administration ou une action de routine pour changer les institutions politiques. Non, c'est les élections en République démocratique du Congo, c'est un défi à la stabilité politique d'abord interne à laquelle le Congo fait l'objet depuis l'indépendance. C'est un défi aussi à la stabilité externe de la République démocratique du Congo. Donc il faut prendre d'abord les choses sous cet angle-là, parce que quand on le voit sous forme des sanctions et consorts, on le voit sous un prisme réducteur. Alors, pour cela, les gens veulent aller au pouvoir pour le pouvoir. C'est ainsi que les gens veulent même gagner les élections avant même les urnes. Comment ça? C'est en essayant d'avoir un président de la CENI qui est de leur obédience. C'est comment? En essayant de dicter des lois qui peuvent le favoriser et qu'on sorte. Donc voilà, c'est tout cela.
Merci Monsieur Moïse Mtangana. Monsieur Wat Wangunda, on espérait que la CENI, dans la deuxième ère opérationnelle, corrigerait les dysfonctionnements constatés dans la première ère opérationnelle. Mais avec ce qu'on apprend dans la deuxième ère opérationnelle, notamment à Kalemi, est-ce qu'on ne risque pas de déchanter, Monsieur Wat Wangunda?
Oui, moi je partage l'idée de Joseph Mtangana. Moïse Mtangana, des erreurs de la CENI, donc la CI, CENI, version Ngoïmulunda, version Corneille Nanga et actuellement version Kadima. Donc on a l'impression que les gens, au lieu de servir la nation, au lieu de comprendre que le processus électoral, c'est pour contribuer à la stabilisation et à la légitimation des pouvoirs et à la légalisation de ces pouvoirs. Donc on est en face des gens qui se comportent beaucoup plus dans le militantisme, mais aussi ils ne courent que derrière les délais. Alors qu'on doit comprendre que le processus électoral est l'élément clé, en fait, dans la politique étrangère même d'un État. La personnalité du chef de l'État est un grand facteur de puissance en relation internationale. Et donc, dans son déploiement à l'étranger ou à l'extérieur, l'État doit compter sur la personnalité, l'aura même du chef de l'État, vis-à-vis de ses homologues. On a vu comment le président Joseph Kabila, après les élections de 2011, n'a pas eu à faire des exercices pour être reconnu. Ça a été partagé, il y a eu fait des contestations, sauf pour le MLC. On a vu en 2011 que les choses se sont amplifiées, l'IDP est monté au créneau. En tout cas, tout le monde a crié. Un président élu avec 41%. On est allé en 2018. On voit que plus on évolue, plus les statuts ou le primat, mais aussi la qualité de l'organisation des élections continue de s'effondrer en valeur, alors que l'État lui-même doit mettre en place des mécanismes pouvant garantir que la CENI soit placée au sein du ministère de l'Intérieur et que ce soit une tâche du gouvernement que le gouvernement doit remplir en toute efficience, efficacité et en toute crédibilité et transparence possible. Mais on a l'impression que la CENI fait les choses à sa manière. Je peux vous remonter, cher Guy, en vous disant que avant les élections, les processus de révision du fichier électoral duraient au moins 3 mois et 1 mois pour les ratissages. Mais aujourd'hui, on est avec la version du président Kadima, on est à 1 mois avec quelques jours de rallonge comme ratissage. Donc, on est là, on a l'impression que beaucoup d'électeurs, beaucoup de Congolais n'auront pas la possibilité d'être enrôlés faute de temps.
Merci, nous allons terminer avec vous, Madame Stéphanie Walters. Et comment vous entrevoyez la suite de ces processus électoraux, Madame Stéphanie Walters? Madame Stéphanie? Voilà, apparemment elle n'est pas là. Monsieur Wat Wangunda, nous allons finir avec vous. Je vous repose la même question. Comment vous entrevoyez la suite de ces processus électoraux?
Oui, je pense que si les choses continuent telles que nous l'observons aujourd'hui, je pense que nous allons des catastrophes ou de la pagaille électorale, parce qu'il y a déjà des acteurs impliqués dans les processus électoraux qui commencent déjà à être sceptiques et à avoir un regard beaucoup plus figé ou fondé ou qui tourne vers des contestations ou des suspicions à l'égard des organisateurs qu'on considère que l'UDPS qui organise ne peut pas perdre. Donc on a l'impression que les acteurs se préparent déjà à quelque chose de contestation et comme on risque d'oublier d'enrôler plusieurs personnes, parce qu'on a réduit les temps, mais on n'a pas pensé à accroître la capacité des centres d'enrôlement, donc on voit que les choses risquent de s'empirer demain.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Moïse Moussanganya, Monsieur Walter Wangunda et Madame Stéphanie Waters. Merci aussi à Polydor Basunga qui était à la technique avec la participation des Hervé Voka et de Christian Lomombe Didier Daddy sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sebujangwe et d'Étienne Rougerie. À la réalisation, Lèche Walassa. Et à la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Sola, une composition de Soki Vangu avec l'orchestre Bella Bella. Et on se retrouve le samedi prochain.
Sola nazui tango lelo pona lo bela yo. Mama na ko bamba mingi se po bamba na baleki. Una ko mituna o sola na mituni. Bamba na mingi o na boya konkeranse. Ina nini sola o ko sala boye. Nale pinzoto o motema mozokinga. Nale kawapi o bapangi ya vesa. Soki na tuni na bato, gai na loba ni dieu. Mama na koma na mingi se po mama na baleki. Una kumi tuna o sola na mituni. Mama na mingi o na boya kongeroso. Ina nini sola o kosa la boye. Nare pinzoto o motema mozokina. Nare kawaki o mapangi ya vesa. Soki na tuni na bato, ngai na loba ni dieu. O sola sola jabongisa ndando ezaleli na yo. Motema pasi sheri nalemi kolemba nzoto yeye. O sola sola jabongisa ndando ezaleli na yo. Motema pasi sheri nalemi kolemba nzoto mama.
Nakobe na nzoto.
Eh sola moni.
Nakobe na kuble.
Eh sola je mama.
Nakobe na pato.
Eh sola moni. Eh sola je mama.
O sola ya.
Eh sola moni. Eh sola je mama. Isola bonie, isola je mama, isola bonie, isola je mama.